Vous écoutez France Musique.
Léonard de Vinci a dit de la guerre qu'elle est la plus bestiale de toutes les bêtises.
14-18, petite musique d'une grande guerre. Aujourd'hui, dans 14-18, petite musique d'une grande guerre, Antonin Scherer évoque les relations ambiguës de la Suisse alémanique avec l'Allemagne impériale de Guillaume II pendant la guerre.
La Suisse et sa mosaïque de culture et de langue, une longue tradition fédéraliste de vivre ensemble, mais également ce regard tourné vers le grand voisin qui parle la même langue, suisse romande vers la France, tessin vers l'Italie, suisse alémanique vers l'Allemagne, attirant ses soupçons mêlés, ambiguïté parfois aussi. C'est le cas de la Suisse alémanique vis-à-vis de l'Allemagne de Guillaume II durant la Première Guerre mondiale. Attitude aujourd'hui encore difficile à comprendre, pour les romans en tout cas. Situation complexe, loin bien sûr d'être monolithique. On n'entrera pas dans les détails politiques et militaires. Les liens notamment du général Ulrich Willet avec la Prusse, lui qui avait épousé la fille de l'ancien chancelier Bismarck. Mais on va s'intéresser avec vous, Jean-Pierre Hamann, à un épisode méconnu et non moins surprenant de la vie musicale alémanique de cette période troublée, la venue à deux reprises, en 1916 et 1917, de l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, que nous entendons ici dans une lecture récente des premières pages de la deuxième symphonie Lobgesang, de l'un de ses chefs les plus célèbres, Felix Mendelssohn. Puis, encore plus surprenant à mes yeux en tout cas, l'organisation fin 1918, deux mois seulement avant la fin des hostilités, d'une fête des musiciens suisses à Leipzig. On évoquera ensuite une autre facette de cette vie musicale outre-Sarine en 14-18, la position de Zurich comme terre d'asile, un peu à l'image de la Riviera alémanique. De nombreux artistes et personnalités, au-delà du cas bien connu de Lénine et des futurs acteurs de la révolution bolchevique, au-delà aussi du cabaret Voltaire, lieu de naissance du mouvement Dada, les années d'exil du pianiste, pédagogue et compositeur italien installé en Allemagne, Ferruccio Busoni. Jean-Pierre Hamann, vous êtes producteur à Espace 2, spécialiste du chant choral et de la musique suisse, grand connaisseur également de l'Allemagne. Vous signez en 2006 chez Papillon à Genève un très intéressant Leipzig en polyphonie. Et c'est vous qui exhumez pour nous ces bien surprenantes tournées suisses de l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig avec Arthur Nikisch. Les seuls hors d'Allemagne de toute la guerre de cette prestigieuse institution fondée en 1743 et qui en 1914 n'a pas encore été détrônée, dit-on, au baromètre du prestige par la Philharmonie de Berlin.
Dont Nikisch était également le directeur, il ne faut pas l'oublier. Alors, plaçons-nous dans cette aurore du 17 novembre 1916 à Leipzig, sortant d'un hôtel, 80 messieurs avec des étuis d'instruments dans les mains, un peu de bagages, s'en vont à la gare bavaroise pour prendre le train en direction de Würzburg, en Bavière, et puis ensuite à destination de Bâle. C'est la première sortie dans toute l'histoire du Gewandhaus, la première sortie à l'étranger. Et ce sera aussi l'unique sortie pendant la guerre, donc entre 14 et 18, d'un orchestre allemand à l'étranger, hein, donc hors d'Allemagne. Et c'est la Suisse qui va les accueillir, et donc c'est aussi un épisode assez sensible. À ce moment-là, comme vous l'avez dit, il y a un net clivage entre la Suisse alémanique et la Suisse romande. Et la tournée de cet orchestre du Gewandhaus, qui emporte dans ses bagages la 3e symphonie de Beethoven, la 1ère de Brahms, Tod und Verklärung de Richard Strauss, et deux pièces symphoniques extraites des opéras de Wagner, cette tournée ne se fera qu'en Suisse alémanique. Ce sera relevé, évidemment, par la presse allemande, qu'il vaut la peine de compulser à cette époque, parce qu'on se rend compte qu'on est en pleine propagande. Ça, c'est évident. Et à chaque occasion est donnée de pouvoir critiquer ce que font les Français en Suisse en organisant, par exemple, des expositions qui n'ont absolument pas le panache que peut avoir l'orchestre du Gewandhaus, le meilleur orchestre au monde qui joue vraiment d'une manière exemplaire et qui ne fait pas de fausses notes comme l'orchestre du Conservatoire de Paris lors de sa tournée dirigée par son chef Alfred Messager et non pas André Messager. Voilà encore une petite pointe vraiment tout à fait pernicieuse. Donc ces concerts seront un succès et toujours il faut imaginer qu'on est dans un pays qui reçoit beaucoup de soldats internés des deux camps, c'est-à-dire autant de l'Allemagne que de la France. Donc il faut faire quand même un petit peu attention lors de ces soirées, mais c'est toujours un grand succès, on fait salle comble, et le succès est si grand qu'il faut redoubler le concert à Berne, et on se promet de se revoir 6 mois plus tard avec une deuxième tournée.
Printemps 1917, l'une des périodes les plus noires de la Grande Guerre, et pourtant, étonnant spectacle, que ces foules en liesse qui se pressent dans les cathédrales de Bâle, de Zurich, de Lucerne, puis de Berne, pour entendre plus de 300 Allemands clamer leur Deutsches Requiem de Brahms. Le Gewandhaus de Leipzig ont tourné à travers la Suisse alémanique pour la seconde fois en quelques mois. On a évoqué les circonstances avec vous, Jean-Pierre Hamann. Vous nous parlez maintenant d'un épisode encore plus surprenant peut-être, sorte de retour d'ascenseur. L'organisation à Leipzig, 2 mois avant la fin du conflit, de la fête annuelle des musiciens suisses, sorte de vitrine de notre créativité nationale. On n'y trouve pas de roman, à l'exception du jeune voix d'adoption Otto Barblanc. Et pas beaucoup de compositeurs présents non plus. Maladie plus ou moins diplomatique. Il faut rappeler que la grippe espagnole est en train de ravager l'Europe une seconde fois après les canons. Bref, tableau pour le moins chaotique, pour ne pas dire surréaliste.
Oui, on a de la peine à imaginer, d'ailleurs, en découvrant ce fait dans les annales de l'Association des musiciens suisses, qui a été fondée au début du XXe siècle, cette association qui a essayé de se faire connaître, de faire connaître la musique suisse à l'étranger, avec beaucoup de difficultés, il faut le dire. Il y a eu des tentatives d'organiser, par exemple, des fêtes à Berlin, parce qu'on savait que c'était le lieu des éditeurs, etc. Ça n'a pas marché. Et là, en guise de remerciement, Leipzig a décidé d'accueillir les compositeurs suisses. Elle avait de bonnes raisons aussi parce que la plupart des compositeurs alémaniques avaient fait leurs études au conservatoire de Leipzig, créé par un certain Félix Mendelssohn. Donc, elle les invite, mais avec une petite condition quand même, en disant, nous, on a des difficultés quand même économiques assez graves après 4 ans de guerre. Si vous pouviez renoncer à vos royalties, ça nous arrangerait beaucoup, ce que feront bien sûr les Suisses. Et à cela, en contrepartie, Berti s'ajoutera à une série de concerts dans le célèbre Gewandhaus. Certains seront dirigés par le grand Arthur Nikisch, d'autres par les compositeurs eux-mêmes. Pendant une semaine, on aura l'occasion d'entendre cette jeune école, parce qu'elle est considérée comme une jeune école suisse. Des gens comme Hans Huber, comme Volkmar André, comme Otmar Schuck, qui aura droit à une soirée entière de ses leaders, ce qu'un critique de la place trouve peut-être un peu exagéré quand même. Il ne pense pas que cette musique supporte nécessairement une soirée entière. Il y a un compositeur qui lui tire très bien son épingle du jeu, c'est notre Souter national, Hermann Souter, l'auteur des Laudi, qui avait proposé sa première symphonie à Leipzig, qui l'a dirigée. Et là, alors, il s'en sort en tant que compositeur, mais aussi en tant que directeur avec des lauriers, parce que les Allemands avaient tendance quand même à avoir un regard, en tout cas la critique, un regard assez condescendant sur cette Suisse et ces petits Suisses qui venaient présenter leur musique. Mais là, visiblement, la prestation de Hermann Souter leur en a bouché un coin.
Thank you.
Volkmar André, l'un des compositeurs helvétiques joués lors de la fête des musiciens suisses en 1918 à Leipzig. Ici, son deuxième trio avec piano, composé en 1914 et interprété par l'Absolute Trio. André Haé, un personnage central de la vie musicale zurichoise, formé à Cologne, chef titulaire de l'orchestre de la Tonhalle pendant toute la première moitié du XXe siècle, directeur du conservatoire de Zurich également jusqu'en 1939. Durant la Grande Guerre, il s'est illustré en accueillant l'un des grands exilés de la musique, le pianiste, compositeur et pédagogue Ferruccio Busoni, complètement déboussolé après avoir dû quitter Berlin fin 1914, où il était actif depuis 1894. Busoni, que l'on entend ici grâce au miracle des enregistrements sur piano Veltemignon dans une transcription par Liszt de la Campanella de Paganini. Busoni qui a choisi Zurich parce que la ville était devenue d'un coup, avec le déclenchement de la guerre et selon ses propres termes, la plus importante ville d'Europe, le centre de tous les mouvements intellectuels. Il s'installe au 36 de la Scheutzerstraße. Volkmar André Haé devient pour lui une forme d'agent. Il joue avec la Tonhalle, la plupart de ses pages symphoniques, parmi lesquelles plusieurs premières. Busoni, lui, travaille essentiellement à son opéra Dr. Faustus. Pour tenir le coup moralement, il accueille dans son salon les grands esprits qui résident ou transitent par Zurich, les écrivains Rilke et Zweig, les compositeurs Wolf Ferrari et Schoch, le chef Klemperer. Il n'abandonne pas non plus la plus grande, peut-être, de ses passions, l'enseignement, avec l'aide d'un nouvel assistant qui remplace Egon Petri, demeuré en Pologne, c'est Philippe Jarnasch. Il continue à influencer la jeune génération de pianistes, mais aussi de compositeurs. En Suisse, ils ont pour nom André Haé, justement, mais également Hans Huber, le Balois, qui en 1917 dédie à son pays sa 7e symphonie. Hans Huber, le post-romantique, qui préfère dessiner les mouvements bucoliques et hors du temps d'un Lendl. Hochzeitszug, un cortège de mariages paysans, que de paraphraser le bruit des canons.
Thank you.
cortège de mariage paysan esquissé en 1917 par Hans Huber en guise de troisième mouvement pour sa septième symphonie en ré mineur, dite « La Suisse », des interprètes allemands, les Stuttgarter Philharmoniker, dirigés par Jörg Peter Weigle. Hans Huber, disciple parmi tant d'autres de Ferruccio Busoni durant ses années zurichoises, qui ne s'achève qu'en 1920, plus d'une année après la signature de l'armistice. Busoni, qui avant la guerre avait transmis sa science à beaucoup d'autres musiciens suisses qui avaient alors l'habitude de faire le voyage de l'Allemagne, on pense notamment au pianiste zurichois Rudolf Ganz, qui après un diplôme de virtuosité au conservatoire de Lausanne en 1894, part avec son condisciple Émile Robert Blanchet se perfectionner auprès du maître italien à Weimar, où Busoni donne des cours magistraux en marge de son enseignement berlinois. Ganz sera l'un des pionniers du Chicago College of Music, de la Roosevelt University, et l'un des ambassadeurs les plus actifs de la nouvelle musique française aux États-Unis. Maurice Ravel lui a dédié son troisième poème du cycle Gaspard de la Nuit, Scarbo. On écoute ici Rudolf Ganz pour clore cette page suisse-alémanique de 14-18 dans l'une des œuvres les plus célèbres de Claude Debussy, La fille aux cheveux de lin, huitième prélude du premier livre. Tout cela grâce à la magie reproductrice des pianos américains en picot. Rudolf Ganz ressuscité, nous écoutions Claude Debussy et sa fille aux cheveux de lin.
C'était 14-18, Petite musique d'une grande guerre, une émission proposée aujourd'hui par Antonin Scherrer en coproduction avec les radios francophones publiques, réalisée par Bastien Meucli, Patrick Lérisset et Philippe Palares.